Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Et les principales actualités de ce dimanche 4 avril 2021. L'appel au calme des médecins australiens après le décès à Melbourne d'un homme après qu'il ait reçu le vaccin AstraZeneca. Le canal de Suez en Égypte, qui est la voie la maritime la plus fréquentée au monde, est de nouveau opérationnel et les centaines de bateaux qui attendaient depuis des jours de pouvoir passer ont enfin pu reprendre leur route. Enfin, la France, depuis hier soir, est de nouveau confinée, et ce pour la troisième fois depuis le début de la pandémie. Et je vous le disais donc, la communauté médicale en Australie appelle la population à rester calme et à continuer surtout à se faire vacciner, alors qu'un homme âgé d'une quarantaine d'années est mort à Melbourne d'une thrombose quelques jours après avoir reçu une dose du vaccin AstraZeneca. Le lien de cause à effet n'est pour l'instant pas clairement établi. Et dans l'intervalle, Michael Kidd, le médecin chef par intérim en Australie, indique que la consigne, c'est de poursuivre la campagne de vaccination.
The risks of serious side effects remain very low. But safety is paramount, which is why ATAGI and the TGA are continuing to do due diligence on this case. We have not been advised at this time by ATAGI or the TGA to pause the rollout of the AstraZeneca vaccine in Australia. We continue to follow the medical advice of our national experts.
À Melbourne, le médecin généraliste Mukesh Aikerwal signale, lui, qu'une partie de ses patients a décidé d'attendre pour se faire vacciner, attendre au moins jusqu'à ce que l'Agence australienne du médicament ait terminé son enquête.
We're clear about the fact that this is a very small number of cases in Britain, you know, one in 600,000, that, yes, you need to be wary of it, but it's very, very rare. So the message is, please get vaccinated. Please be aware that there's always side effects and to report them.
La TGA, donc l'Agence australienne du médicament, elle est en contact avec plusieurs experts médicaux internationaux et ce, dans le but de déterminer quel type de personne présente un risque de développer une thrombose, autrement dit un caillot de sang, lorsqu'ils reçoivent le vaccin AstraZeneca. Les enquêtes menées jusqu'à présent montrent que ces caillots de sang peuvent apparaître entre 4 et 20 jours après l'administration du vaccin. Pour le professeur Nada Hamad de la Société australienne d'hématologie, il n'est pas sûr pour l'instant que les personnes avec des conditions préexistantes ou par exemple les femmes qui prennent la pilule soient davantage exposées au risque de développer un caillot de sang. Écoutez-la.
We're trying to figure that out now because the number of cases are so low, so it's very hard to know what's common in all of these patients. What are the risks associated with this, or what in a patient's history or background makes them more susceptible to this? So at this stage, it's not quite clear who may be specifically at risk, but it appears to be happening in younger patients. The age of under 55 has been reported on a number of occasions.
Une bonne nouvelle maintenant dans le Queensland où aucun nouveau cas de transmission locale du virus n'a été détecté quelques jours après la levée du confinement à Brisbane. En revanche, on compte toujours exactement 72 cas actifs à travers cet État. Yvette Datt, la ministre de la Santé du Queensland, rappelle pour sa part que les cliniques sont ouvertes aujourd'hui, dimanche de Pâques, et elle appelle la population à aller se faire tester.
With all those close contacts and all of the testing we've done, that we're seeing negative results coming back. This is all part of our plan with the 3-day lockdown to ensure that we can get enough people out there tested. And this meant that we can open up our economy, we can enjoy Easter, and it is wonderful to see that our tourism operators are recording record numbers, that they are seeing lots of people taking up the opportunity to book accommodation and enjoy the Easter holidays.
Et maintenant, un carnet un peu plus sombre, une icône de la mode et également l'ancienne directrice générale de cette radio, SBS, Carla Zampatti, est décédée hier à l'âge de 78 ans. Elle avait été hospitalisée à Sydney une semaine plus tôt après une chute au jardin botanique où elle se trouvait pour assister à la soirée d'ouverture de l'opéra La Traviata. Une perte immense, en particulier pour la communauté italienne. Rachel Grassi, qui dirige la chambre de commerce italienne en Australie, rappelle que Carla Zampatti était un exemple pour l'ensemble de la communauté transalpine en Australie.
Carla represented one of these stars that were up there and could actually make the Italians feel proud and probably help them achieve their dreams, working hard to fulfill a purpose. Carla, more than many, actually gave an example of how to fulfill a passion, a purpose, and to dedicate her life to hard work and actually led by example.
L'Italie, justement, on va en parler maintenant, puisque le pays vient d'être placé entièrement en confinement strict, et ce pour une durée de 3 jours. L'objectif pour les autorités, c'est de décourager la population à se déplacer pendant les vacances de Pâques, alors que le pays est confronté à une 3e vague de Covid-19. Toutes les régions du pays sont donc classées en zone rouge jusqu'à demain, lundi. Et un autre pays très durement affecté par la pandémie, c'est le Brésil, où le coronavirus a déjà fait plus de 328 000 morts. C'est le 2e pays après les États-Unis le plus touché au monde. La situation sur place reste extrêmement tendue, alors que c'est maintenant un variant beaucoup plus contagieux qui circule dans ce pays. On va écouter l'analyse d'Alexandre Schwarzhold. Il est épidémiologiste à l'université de Santa Maria.
Le variant P1 est typique du Brésil, c'est une souche différente. Bien qu'il existe des similitudes génétiques, le virus présente des points de mutation différents de celui d'Afrique du Sud, et qui est également très compliqué, ou de celui du Royaume-Uni. Ce variant brésilien circule déjà dans tout le pays. Dans certains hôpitaux, il représente entre 60 et 70% des cas. Ces souches sont le résultat de l'adaptation du virus. Je travaille dans une unité de soins intensifs où nous voyons des patients de 20 ans qui n'avaient aucune comorbidité, aucun facteur prédisposant à une aggravation. Ces patients sont très probablement contaminés par ces virus mutants. C'est aussi un problème majeur dans un pays qui met beaucoup de temps à étendre sa vaccination. Lorsqu'elle est très lente, elle permet au virus de s'adapter à de nouveaux hébergeurs de manière plus virulente. Ces souches, et cela a déjà une identification claire avec la souche du Royaume-Uni, provoquent une augmentation de la charge virale chez l'homme, augmentant le taux de transmission. Cela permet au virus de continuer à être transmis plus efficacement, mais cela augmente également le lien avec les tissus humains, produisant plus de maladies.
Não há dúvida que a gente já identifica circulando no Brasil.
En Somalie, au moins 10 personnes ont été tuées dans une attaque suicide qui a frappé la capitale, Mogadiscio, quelques heures seulement après que des milices Al-Shabaab aient attaqué 2 bases militaires se trouvant en périphérie de la ville. Attaque meurtrière également aux États-Unis où, un peu moins de 3 mois après l'invasion du Capitole, un homme a foncé avec sa voiture sur 2 policiers qui gardaient ce bâtiment à Washington, une attaque à laquelle l'un de ces 2 policiers n'a pas survécu. Du coup, la sécurité a été renforcée autour du Parlement américain, tandis que les enquêteurs chargés de faire la lumière sur cette attaque commise par un homme de 25 ans, connu pour de multiples problèmes psychiatriques, pensent qu'il s'agit là d'un acte isolé. On prend maintenant la direction de l'Égypte, où la voie maritime la plus fréquentée du monde, le canal de Suez, est de nouveau ouverte à la circulation après avoir été bloquée 6 jours par un navire qui s'était échoué au milieu du canal. Le retour à la normale sur cette voie essentielle au commerce mondial a pris un peu de temps, car pendant ces 6 jours, des centaines de bateaux attendaient de pouvoir passer. Il y a donc eu un peu de bouchons lors de la réouverture, mais la circulation est donc désormais rétablie et au passage, un record a même été battu. On écoute les explications d'Alexandre Bouchanti pour RFI.
Record battu pour le canal de Suez. Depuis le renflouement du porte-conteneur Ever Given et la reprise de la navigation le 30 mars, 422 navires transportant 26 millions de tonnes de marchandises auront traversé la voie d'eau dans les 2 sens en 5 jours. Une bonne nouvelle pour le commerce international, dont plus de 10% passent par le canal de Suez. L'heure maintenant est celle des comptes. L'Égypte a directement perdu près d'une centaine de millions d'euros en droits de péage. Mais plus grave encore, des pertes se comptant en centaines de millions d'euros ont été entraînées par les retards de livraison de marchandises et de matériel de production à un monde qui fonctionne de plus en plus à flux tendu. Qui paiera la facture ? L'enquête vient de débuter et le Ever Given est pratiquement placé en garde à vue dans le lac Amer, au centre du canal de Suez. Alexandre Ucianti, Le Caire, RFI.
Et on reste en Égypte, puisqu'aujourd'hui un convoi tout à fait exceptionnel est en train de traverser la capitale, Le Caire. 22 momies royales sont en train effectivement d'être transférées depuis le centre-ville vers un nouveau musée, le Musée national de la civilisation égyptienne, qui vient d'ouvrir en périphérie de la capitale. Et comme en Italie, la France, depuis samedi soir, vient elle aussi d'être placée en confinement, le troisième depuis le début de la pandémie. L'une des mesures phares, alors bien sûr, il y a la fermeture des écoles et des crèches, mais celle dont on attend le plus du côté des autorités pour réduire la transmission du virus en réduisant les contacts entre les personnes, c'est l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique. C'est pourtant une tradition fortement ancrée en France, particulièrement au printemps, où généralement des centaines de personnes se retrouvent par exemple à Paris sur les quais de Seine pour des apéros en plein air. Alors avant l'interdiction devenue effective samedi à 19h, quelques personnes se sont retrouvées près de la gare Montparnasse pour un dernier verre à l'air libre. On va écouter le reportage de Célia Gauthier à Paris pour RFI.
Pour Sissa, c'est un rituel. Tous les samedis, il va au marché puis prend un verre dans son bar favori. Hier, pourtant, c'était sa dernière bière avant l'interdiction. Un sacrifice qu'il accepte de bon cœur.
Si au final, on va réouvrir les brasseries, les restos, qu'on retrouve un semblant de notre vie d'avant, pourquoi pas ?
Un peu plus loin, Mathieu sert ses derniers clients. Le beau temps avait permis à ce patron de bar de renouer avec sa clientèle et de gagner un peu d'argent.
Là, ce qu'on faisait, c'était quand même du plus parce qu'on a quand même la chance d'avoir les aides. C'est sûr que là, nous, ça sert à rien qu'on reste ouvert.
Le son de cloche est bien différent de l'autre côté de la rue. Les tables habituellement réservées à la terrasse sont couvertes de bouteilles. Anthony, le gérant du café de la place, compte résister jusqu'au bout.
Les effets d'annonce, il y en a tous les jours, mais ça change tout le temps. Donc là, on attend d'avoir des vrais textes, des vraies directives sur ce qu'on a le droit de faire ou pas faire. Pour l'instant, on restera comme d'habitude, ça changera pas.
Sans cuisine, le café de la place aura du mal à rester ouvert. La règle est claire, pour la préfecture de police de Paris, toute vente d'alcool à emporter est interdite, sauf accompagnée d'un repas.
Et donc en France métropolitaine, on est à nouveau confiné. En revanche, dans les territoires d'outre-mer, où la circulation du virus est un tout petit peu moins alarmante, les règles sont beaucoup moins strictes. Pourtant, dans la plupart de ces territoires, la situation sur le plan sanitaire est également assez inquiétante. On fait le point avec Marion de la Moissonnière pour RFI.
Dans les Outre-mer, partout, de nouvelles mesures ont été prises à la veille du week-end pascal. En Guyane, où le taux d'incidence vient de franchir le cap des 50 cas pour 100 000 habitants, le couvre-feu est passé de 23 à 19 heures. À La Réunion, c'est à 18 heures que tout le monde doit être rentré chez soi. Et ce, pendant encore au moins deux semaines, les lycées vont devoir accueillir moins d'élèves. Bars et restaurants, centres commerciaux de plus de 10 000 mètres carrés, salles de cinéma, de spectacle et de sport, tout reste fermé. Idem en Martinique, où les commerces et les lieux culturels ont tiré le rideau jeudi dernier. Plus personne dehors après 19h. Pique-nique et camping interdits ce week-end. Les médecins, les infirmiers et tous les agents du CHU de Fort-de-France ne peuvent plus prendre de congés. Situation inquiétante également dans les hôpitaux de Guadeloupe qui arrivent à saturation. Même si le nombre de nouveaux cas de Covid diminue légèrement. Alors pour tenter de limiter la propagation de l'épidémie, le couvre-feu a été ramené de 22 à 20 heures pendant tout le week-end de Pâques. Et l'accès aux plages est interdit après 18h.
Et pour finir, comme toujours, on fait un point sur la météo de ce dimanche de Pâques en Australie. Il fait 35 degrés malgré un temps nuageux aujourd'hui à Perth. 30 degrés du soleil à Adélaïde. Beau temps aussi sur Melbourne avec 23 degrés. Pareil à Sydney où il fait 27 degrés. 25 à Brisbane qui va être balayé aujourd'hui par des averses. Des averses aussi à Cairns où le thermomètre va monter jusqu'à 31 degrés. Et de la chaleur très humide également à Darwin avec une température maximale de 30 degrés aujourd'hui.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.